Non. Alors c'est celui-là. Voilà. Voilà. Il y a Romain qui essaye de m'enseigner l'informatique, mais il doit être très patient. Voilà, il fait un peu chaud hein, dans la pièce. Hein. On avait demandé au Seigneur de la chaleur, mais pas trop. On va faire un petit peu d'air. Voilà. On va faire un petit peu d'air, si c'est possible. On va ouvrir nos Bibles ce matin. Voilà, il y en a qui prennent soin de moi. Alors, c'est pas rassurant pour vous, parce que si vous me donnez à boire, je vais parler plus longtemps. On va ouvrir nos Bibles dans le prophète Ésaïe. On visite un peu l'Ancien Testament. Ces derniers temps, on a visité très courtement la semaine dernière l'Ecclésiaste. Livre de la sagesse, et aujourd'hui on regarde un prophète. Ésaïe 40. On va lire à partir du verset 18, bien que je vais commenter le chapitre entier. Ésaïe 40, Ancien Testament, tout le monde y est. À qui, verset 18, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il y soude les chaînettes d'argent, celui que la pauvreté oblige à donner peu. Choisis un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas de racines sur terre. Ils soufflent sur eux, ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux vers le haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée, les appelle par leur nom? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse dépôt. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. À qui me comparerez-vous ? En l'occurrence, ici, le peuple avait d'autres dieux. Mais notre question ce matin, c'est à qui compare-t-on l'Éternel ? Notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, dit-on. Mais on a fabriqué de faux dieux. Une nation qui s'appelle les Vanuatu ont déifié un homme. Cet homme s'appelle le prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre. Ils croient dans leur idée qu'il est l'accomplissement de la prophétie, qu'un esprit prendrait forme dans sa forme à lui, qu'il pourrait venir dans leur pays et qu'il leur donnerait tous les pouvoirs magiques. Ils sont devenus tellement convaincus qu'ils ont fait venir le prince Philippe, qu'ils ont pris des photos, qu'ils les ont affichées partout. Et qu'ils ont commencé un mouvement qui existe, vous pouvez vérifier, s'appelle le mouvement pour le prince Philippe. Ils échangent des cadeaux avec lui. Ils font beaucoup de choses en son nom. Mais le prince Philippe n'est pas Dieu. Et on ne peut l'adorer. On peut mettre une personne, on peut mettre son travail, on peut mettre son activité à la place de Dieu. Mais ça ne remplace pas Dieu. Et ce n'est pas Dieu lui-même. Et ici, la question qui est lancée au peuple par le prophète, c'est à qui comparez-vous Dieu ? Ce qui est intéressant dans le contexte, pour vous donner un tout petit peu le contexte, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, le prophète Ésaïe avait un message à faire passer au peuple, qu'ils allaient être déportés en Babylone. C'était la mauvaise nouvelle. Et il s'y est employé avec force conviction. Mais, maintenant, l'introduction du chapitre 40, regardez bien, commence avec une double consolation. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Double consolation. Il a annoncé la captivité, maintenant il dit, j'ai quelque chose de bien à vous annoncer. Regardez un petit peu plus loin, dans le chapitre 52. C'est que pour vous compreniez un peu quel est le texte que nous lisons. Dans les premiers versets du chapitre 40, il est marqué « Criez, proclamez, criez trois fois de suite, publiez » verset 9. Et regardez bien 52:7, qu'est-ce qu'il est dit ? « Qu'ils sont beaux sur les montagnes » il est marqué « Montez sur la montagne, publiez » « Les pieds de celui qui apporte de bonnes » nouvelle, qui publie la paix, qui de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Publiez le fait que Dieu n'a pas perdu le contrôle, qu'il est celui qui va vous sauver, qu'il est celui qui va vous ramener. Message de consolation après la mauvaise nouvelle, voilà la bonne nouvelle. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voici le Seigneur vient avec puissance. Son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, les rétributions. Comme un berger, il paîtra son troupeau. On annonce le sauveur, le berger. Celui qui va prendre soin de son peuple. Son peuple, on l'annonce, va perdre son terrain. Va perdre son pays. Mais Dieu annonce, mais je serai avec vous. Mais je viendrai vous chercher, je vous ramènerai. Et là, il faut aller dans le prophète Jérémie au chapitre 31, un texte qu'on connaît, que je cite assez fréquemment, mais qui est tellement important. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 37. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Consolez-vous, soyez rassurés, vous passez par la turbulence, vous passez par la tribulation, vous vous sentez abandonné. Et là, vous commencez à comparer. Ah, c'était mieux avant. Finalement, à quoi ça sert d'être chrétien ? Dans le verset 8 de notre chapitre ce matin, il est dit « L'herbe sèche, la fleur tombe. » Mais, quelqu'un connaît la suite ? Elle est écrite juste en dessous. « Mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. » Éternellement, à jamais. Dieu ne prononce pas des paroles qu'il oublie. Dieu ne fait pas des promesses sans considération. J'ai réfléchi, je t'avais dit, non. Finalement, non. Regardez encore dans le chapitre 54. C'est tout le contexte d'Ésaïe, 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré, pardon, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviens plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé de ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur l'Éternel, il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Il a fait une arche pour ça. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Et ce cantique qu'on chante, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Voilà le contexte. On a annoncé la bonne nouvelle, les montagnes s'effondrent, les collines chancellent. Et Dieu rappelle, consolez-vous, annoncez la bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle, avant que nous fassions des comparatifs, avant que nous venions à douter, douter que Dieu tiendra, finalement, parole. Et vous rappelez le texte de la semaine dernière d'Ecclésiaste ? C'était quoi le thème ? Il y en a qui se souviennent, même si c'était tard au bout du culte. Dieu fait toute chose belle en son temps. Dieu fait toute chose belle en son temps. En son temps. Il faut souligner le « en son temps ». Pas dans notre temps. Des fois, c'est même avant notre temps, n'est-ce pas ? Ou des fois, on dit « c'est un peu tard ». Et on se plaint un peu. Regardez le verset 9. Pour rentrer dans le texte, il dit voilà. Monte sur une montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis au village de Juda, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. C'est ça le message d'Ésaïe ce matin, c'est ça. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas une force. Dieu n'est pas une doctrine. Dieu, nous l'avons vu le vendredi soir depuis le mois de janvier, Dieu est une personne. Dieu est une personne dans son entier. Même si on ne peut pas en faire l'image, il pense, il parle, il est attristé. C'est notre Dieu. Mais c'est un Dieu, et on va le voir ce matin, on va se le rappeler ce matin, c'est un Dieu puissant. L'Éternel est un Dieu puissant, il règne. Il est celui qui pourvoit des soins. Il est au-dessus des idoles, on va le voir dans les versets. Des princes, des autorités, des nobles. Il est celui qui pourvoit des soins constants pour nous. On va regarder 3 P. Puissance, personne, provision. Dieu est une puissance par sa personne et par ce qu'il donne. Regardez les versets 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Imaginez notre Dieu. Il prend les océans, les mers, les cieux, la terre, et il le compare avec le creux de sa main. C'est pas un grand Dieu ? C'est pas un géant hideux, vous savez, quand on voit des géants, quand on voit les films avec David et Goliath, hein, on voit quelque chose d'horrible en fait, hein. Démesuré, affreux, hideux, méchant. Mais moi, quand je pense à mon Dieu, et que même là, je me dis, il tient toutes ces choses dans la paume de sa main. La main, c'est fait pour bénir. C'est pas fait pour tuer. C'est pas fait pour maudire. Et si Dieu met toutes ces choses dans le creux de sa main, c'est tout d'abord parce qu'il est grand, mais parce qu'il n'a pas envie que ces choses soient mauvaises. Et la Bible dit que quand il les a créées, il les a fait belles. Il les a fait belles. Il est le Créateur et il a mis au creux de sa main. Regardez bien, il a pris les dimensions des cieux avec la paume de sa main. Il a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Vous imaginez un Dieu qui prend une pile de rochers, prend tout ce qui a été créé, prend toute la neige, prend la glace qui existe encore, la terre, il le met dans une balance et il dit, mais qu'est-ce que ça pèse ? Quand on pense à l'infinie grandeur de notre Dieu et à notre infinie petitesse, et on se dit, pour cette poussière, pour ce rien du tout, si la terre c'est de la poussière, alors qu'est-ce que je suis ? Et pour cette poussière, Dieu est mort. Dieu a donné le plus beau cadeau qui n'ait jamais existé. Comment est-ce que nous considérons les autres ? Comment sommes-nous considérés des fois ? Comme des riens. Un grand mot, hein ? Je l'ai utilisé la semaine dernière avec vanité, comme des nuls. Oh, lui, il est nul. Devant Dieu, nous ne sommes pas nuls. Et Dieu, dans cette image-là, ne dit pas que ce qu'il a créé est nul. Mais il dit que par rapport à lui, c'est tout petit. Mais c'est tellement beau. Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu grand. Regardez, ensuite, il va poser 5 questions. Dans les versets 13 et 14. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel ? Qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse ? Ça me rappelle un dialogue avec Job. Vous savez, quand Job, il commence à un petit peu dire à Dieu, « Bon, écoute, ça suffit, hein, maintenant, tu me casses un peu les pieds. » Et qu'il a, il a un dialogue assez fort avec Dieu, Dieu lui dit, « Mais dis donc, Job, t'étais là au départ ? C'est toi qui as créé toute chose ? Tu vas finir par faire dire à Job, « Je sais que tu... » tout. On a besoin de considérer la grandeur de Dieu et notre petitesse pour réaliser que c'est Dieu qui est grand. Que c'est Dieu qui est un créateur immense et qu'il n'a pas besoin de mes conseils. Il n'a pas besoin de réunir le conseil des sages. Des fois, je me trompe, je dis le conseil des singes. Le conseil des sages pour donner des conseils à notre Dieu. Dieu n'a pas pris la sagesse humaine. Dieu est la source de la sagesse. Regardez bien, il commence au verset 15, il dit, « Voici, les nations sont communes, gouttes dans un seau. » Vous imaginez, toutes les nations réunies, Dieu prend un seau et dit, « C'est une goutte au fond. » Ah, mais ce sont des grands, ce sont des puissants, ce sont des gens qui commandent. Dieu dit par rapport à la création, les nations sont une goutte dans un seau. On se sent grand après ? Ça nous abaisse un peu le caquet, comme on dit en français courant. On n'a plus envie de se mettre devant Dieu en disant, bon dis donc Dieu, il faut que je te cause. Mais l'attitude, on va la voir dans le texte tout à l'heure, levez les yeux. Levez les yeux vers Dieu. Est-ce que votre Dieu ou notre Dieu est à cette dimension ? Pas un Dieu méchant, pas un Dieu, vous savez, Terminator. Hein, quand on regarde tous les nouveaux films, hein, quand je regarde, des fois je m'arrête dans les grandes surfaces et je regarde les titres des nouveaux films. C'est meurtre, assassinat, apocalypse, destruction, Terminator, ça c'est beau. J'en trouve pas beaucoup sur l'amour en fait. Enfin, il y a une Il y a une tendance d'amour aujourd'hui que je ne suis pas tellement. Mais Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu qui prend soin. Un Dieu qui ne nous a pas demandé conseil pour créer la terre. Il y a une dame qui a été membre de cette église qui s'appelait André Dufour et qui avait écrit un petit poème qui s'appelait « Si j'avais été là ». Si j'avais été là. Et elle avait repris la scène de la crucifixion. Je n'ai pas retrouvé le poème pour vous le présenter ce matin. Elle avait repris la crucifixion et elle avait dit « Oh Jésus, si, quand tu avais été arrêté, ah si j'avais été là. Ah si j'avais été là. » Et puis tu sais, quand ils ont commencé à te flageller, « Ah, ah si j'avais été là. Ah si j'avais été là. » Et puis tu sais, quand ils ont commencé à te cracher dessus, à te maltraiter, « Ah si j'avais été là. » Oh puis ta croix, tu sais qu'ils ont donné, « Ah si j'avais pu être là. » Enfin, quand ils t'ont cloué à la croix. Ah, si j'avais été là, je n'aurais rien changé. Je n'aurais rien changé. Parce qu'il fallait que tu meures pour moi. On peut toujours vouloir que la terre soit carrée, ronde, octagonale. On peut toujours espérer qu'elle soit plus ensoleillée, moins ensoleillée. Qu'il y ait plus de glace, moins de glace, plus d'eau, moins d'eau. Mais Dieu l'a créée belle. Et regardez bien, quand lui, il la regarde, il dit, voici les nations sont comme une goutte d'eau, elles sont comme de la poussière sur la balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Voilà ce que nous sommes, et voilà ce que Dieu est. Un Dieu puissant. Nous sommes comme de la fine poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Vous imaginez, vous touchez, vous dites, je suis poussière. Notre corps doit disparaître, on l'a vu aussi le vendredi. Puissance dans ces versets. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde notre Dieu, il est une personne incroyable envers nous. Regardez bien dans les versets, à partir du verset 18. Il commence avec ce verset, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et regardez bien, il dit, quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. Il y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Dieu est au-dessus des idoles. Nous avons créé les idoles. Et vous rappelez la première idole qui a été créée? Elle a été créée pendant que Moïse était en train de prendre du doigt de Dieu les commandements. On n'aime pas attendre, hein. Tout au comptant, rien en 30 ans, hein. N'achetez pas tout de suite, payez plus tard. Il vous faut ça tout de suite. Et en fait, il nous faut une réponse de Dieu tout de suite. On a l'impression que Dieu, on aimerait bien lui fournir un sonotone des fois. Vous savez, cet appareil pour qu'il entende mieux. On est un peu comme ces personne qui saute et qui essaye de crier parce que Dieu n'entend pas. En comparaison aux idoles du monde, des personnes, des objectifs, des activités, Dieu est au-dessus. En comparaison aux princes, aux nobles, il est au-dessus. Ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, il étend les cieux comme l'étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire ça. Demeure. Voici, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, j'habiterai avec vous. Ce qui est intéressant, on a toujours la réflexion, c'est que on prend le texte des évangiles, on dit, quand deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Quand on vient dans le bâtiment de l'église, on dit, voilà, on invite Dieu. Alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien, parce que si Dieu habite en nous, comment est-ce qu'on va inviter Dieu ? Ça veut dire qu'à un moment, il est descendu en route. Vous l'avez laissé sur le parking, il vous dit, oh, rentre finalement, viens, viens. Dieu est avec nous, mes amis. Dieu a dit qu'il faisait sa demeure en nous. Le mot demeure, ce n'est pas une construction qui s'effondre. Mais on a fait le verbe demeurer. Demeurer, c'est rester à perpétuité. J'y suis, j'y reste. Hein, c'était une pièce de théâtre. C'est lui qui réduit les princes au néant, qui fait les juges de la terre une vanité, une folie, une souffrance aussi. Le mot vanité, on l'a vu la semaine dernière très courtement, c'est à la fois nul et c'est à la fois souffrance. Des fois, on fait des choses et on se dit tout ça pour ça. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a même pas de racine en terre, ils soufflent et ils se dessèchent. En comparaison aux princes du monde, à ceux qui sont célèbres pendant un temps, Dieu n'a pas besoin de la célébrité. Dieu n'a pas besoin des médias, Dieu n'a pas besoin de la belle star, la Star Academy pour être reconnu star dans notre monde. Et on fait des comparaisons, n'est-ce pas ? À qui me comparez-vous ? Il le dit deux fois dans le texte, verset 18, verset 25. À qui me comparez-vous ? À vos dieux ? À vos anciens dieux ? À votre ancienne manière de vivre ? Quand on fait les comparatifs, il faut faire attention à ce qu'on fait et qui on met. Est-ce qu'on met les mêmes critères d'évaluation ? J'ai lu cette histoire cette semaine qui m'a fait rire. C'est un monsieur qui va voir un ami qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Et quand il rentre dans l'appartement, il trouve le monsieur en train de jouer aux échecs avec son chien. Alors il dit, c'est bizarre. J'ai jamais vu un chien jouer aux échecs. Et le monsieur, il dit, ouais, mais il joue mal. Comment ça ? Attends, mais ton chien, il est drôlement intelligent pour jouer aux échecs. Il dit, ouais, mais ça fait trois fois de suite que je le bats. On fait des comparatifs avec des choses qui ne tiennent pas. Notre Dieu, c'est ce Dieu tellement grand qu'il peut se passer de nous. Tellement humain qu'il a accepté d'offrir et de vivre avec nous. Tellement rempli de compassion que quand on pêche, il est prêt à nous pardonner. Tellement rempli d'amour qu'il nous nourrit, qu'il nous soutient, qui nous donne le vêtement, le logement. C'est pas un Dieu lointain qu'on ne peut pas acquérir, qu'on ne peut pas rencontrer. Il est puissant. C'est une personne. Les versets 25 à 30 nous disent « À quoi me comparerez-vous ? Levez vos yeux en haut et regardez quoi ? Les étoiles ! » Vous avez déjà compté les étoiles ? Quelqu'un en a trouvé le nombre ? Alors, Constance ? 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000. Il y en a des milliards. Et il y en a plus de 6 milliards. Et le texte nous dit qu'il les connaît par leur nom. Et regardez bien, il dit « Qui fait marcher en ordre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Alors, on imagine, il ordonne tout ce qui est là-haut, mais en bas, il a tellement de mal avec nous. Parce qu'on ne sait pas qui il est. Parce que finalement, on en a une mauvaise image, parce qu'on a des a priori. Parce qu'on a tellement peur de lui confier notre vie. Et j'ajouterai là, de lui confier notre mort en fait. Ce qui est futile. Ce qui va nous amener que finalement, là où tout le monde finit, il a créé les étoiles. Plus nombreuses que nous. Regardez les versets 27. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ah, moi, quand, sur le bureau de Dieu, quand je regarde mon dossier, il doit être en bas, hein. C'est pas un dossier qu'il consulte souvent. On est fâché des fois avec Dieu, non? Il n'y a pas de réponse. Il y a longtemps que je prie. Il y a longtemps que je demande. Et Dieu ne répond pas. Et finalement, on devient un petit peu aigre, hein. Et puis, nos prières deviennent un petit peu des attaques. Bon, Seigneur, c'est pas la première fois que je te le demande, hein. Ça va durer encore longtemps, là? Connaissez pas quelqu'un là-haut qui pourrait parler plus directement? N'est-ce pas? Et pourtant, le texte dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Vous vous rappelez le début? Qui a donné l'intelligence? Qui a donné la sagesse à Dieu? Dieu ne se fatigue pas. Nous nous fatiguons, n'est-ce pas? Nous employons ce mot souvent épuisé, arrivé à bout de force. Parce qu'on est tellement arc-bouté sur ce qu'on veut que finalement on oublie de laisser la place à Dieu. On donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu connaît l'homme, il l'a créé. Dieu sait qu'il s'épuise, qu'il cherche des solutions, qu'il court dans tous les sens. Mais rarement dans la bonne direction. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et là, il descend aux plus jeunes. Il dit, les adolescents même se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle. Celui qui théoriquement est plein de force. Celui qui théoriquement, quand il regarde les anciens, il fait, bon, hé, reste assis. J'ai souvent le privilège, quand je fais mon voyage aux États-Unis, à la fin de la semaine, donc cette église s'est transformée en maison d'accueil, en salle de restaurant, etc., etc. Et donc, entre le samedi et le dimanche, toute une équipe de jeunes, entre 18 et 25 ans, remettent tout en état. Donc, ils louent un endroit pour faire la vaisselle, donc on amène la vaisselle et les verres par camion. Et ma grande joie, c'est d'être avec eux. Et de passer la nuit avec eux, à travailler, à chanter, à discuter, à argumenter, à se rappeler tous les bons souvenirs de la semaine. Et souvent, ils me regardent, ils me disent, je suis avec le papa d'un des garçons, ils nous regardent tous les deux, ils disent, ça va aller? Vous allez pouvoir rester la nuit avec nous? Vos forces ne vous manquent-elles pas? Il dit, tant que Dieu nous donne de la force, on va rester avec vous. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que cette force, c'est pas nous qui l'avons, mais que c'est Dieu qui nous la donne. Accompagner quelqu'un qui souffre, être avec quelqu'un à qui on veut parler, quelqu'un qui vit dans la solitude, c'est Dieu qui nous l'accorde. Et regardez bien, dans ces versets 28 à 30, il y a une note un peu négative. Il dit que finalement, on peut s'épuiser, on peut se fatiguer, on peut chanceler. Regardez bien. Mais, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Waouh! C'est pas rafraîchissant de se dire, mais finalement, quand je suis fatigué, quand je suis épuisé, quand finalement, j'ai l'impression que j'ai fait 3000 kilomètres pour trouver quelque chose et que je ne l'ai pas trouvé. Vers qui je me tourne? Alors quand je suis épuisé, quand je suis à bout, quand finalement j'ai cherché dans toutes les directions sauf la bonne, alors là je me tourne vers Dieu, je dis, bon alors c'est où? Tu m'indiques la route? Et souvent le Seigneur il dit, là. lorsque je suis avec toi. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée? Beaucoup de frères et sœurs peuvent avoir cette idée des fois qu'ils ne font pas partie des priorités de Dieu, que leur dossier est mal classé ou a été classé verticalement, vous savez, hein, ce que ça veut dire, un classement vertical, ça veut dire poubelle. Il n'y a pas d'écoute. Mais notre Dieu, il écoute. Il entend. Il connaît. Il nous accorde sa réponse en son temps. La ville de Sydney, en Australie. Un générateur qui se trouve à 1500 kilomètres. À 1500 kilomètres. C'est lui qui envoie la puissance à Sydney en cas de problème. Alors, vous imaginez que quand la puissance elle arrive à Sydney, elle a perdu un petit peu d'intensité. Ils l'ont pas comme si le générateur il était juste à la sortie. Et bien avec notre Dieu, c'est un peu ça, mes amis. Plus on s'éloigne de Dieu, moins on attrape sa puissance. L'avantage du texte ici, c'est de nous dire de nous tenir vers Dieu. De rester proche de lui, parce que lui, il a décidé de rester proche de nous. Consolez. Consolez mon peuple. Parlez au cœur. Il n'a pas dit parlez à la tête. Il a dit parlez à votre cœur. Parlez à leur cœur parce que qu'est-ce qui a besoin d'être rassuré? Qu'est-ce qui a été le plus offensé? Qu'est-ce qui nous a fait le plus de mal? C'est notre cœur, n'est-ce pas? Pas celui-là, celui-là c'est le jour où il s'arrête, le jour où on a mal en principe, c'est définitif. Mais notre être tout entier. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, tout éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais sa parole demeure éternellement. On a du mal. On a du mal à persévérer. On a du mal à garder nos engagements. On aime regarder ces vieux engagements, l'engagement de notre baptême, l'engagement de ceci, l'engagement... Ah, là, j'avais du zèle. Mais aujourd'hui, j'en ai un peu moins. Parce que tout doucement, il y a quelqu'un qui a répondu au bac. On lui demandait qu'est-ce que c'était une droite rectiligne. Une ligne droite, il a dit, une ligne droite devient rectiligne quand on commence à tourner. Je ne sais pas s'il a eu son bac. Mais avec Dieu, si on reste sur la parallèle, on est juste à côté, on ne le touche jamais. On peut entendre parler de Dieu. On peut connaître tous les textes. On peut connaître les écrits, mais on ne peut pas connaître l'auteur. Et là, le texte, il dit... Tout va disparaître, mais ma parole, elle, ne va pas disparaître. Voici l'Éternel Dieu vient avec puissance. De son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Les rétributions le précèdent. Il est un Dieu puissant. Est-ce que vous comparez Dieu avec autre chose? Avec vos dieux? Avec les dieux des autres? Ou est-ce que la Bible que nous prenons ensemble nous montre ce grand Dieu qui veut se tenir à vos côtés? Il y a un chant qu'on a l'habitude de chanter qui s'appelle « Dieu Tout-Puissant ». Et il dit ceci, je vous rappelle le texte, il dit « Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir ». Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir, de tout mon être. Alors s'élève un chant, quoi? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant. Quand par les bois où la forêt profonde gère et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts et la source avec son onde, livre Zéphyr son chant doux et joyeux. Quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi ? Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi de tout mon être. Alors s'élève un chant. C'est ça le texte. Crie, publie que Dieu est grand, que Dieu est vrai, que Dieu fait toutes choses belles. Ma question, c'est est-ce qu'il le fait pour vous ? Est-ce que nous sommes de ceux qui publions la bonne nouvelle ? Pas juste qu'ils sont morts, mais que Dieu a payé. Que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu bien supérieur à tous les idoles, que je n'ai pas à les craindre. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs. Alors, de tout mon être, s'élève un chant. Est-ce que c'est votre chant ce matin ? Vous n'êtes peut-être pas levé ce matin, vous dire « Ah, il fait soleil !» Et souvent, en principe, on a une meilleure humeur. N'est-ce pas ? Quand on regarde et qu'il pleut. Alors, on va profiter de ce matin, on va profiter que le Seigneur nous a donné la démonstration de son texte. Et on va essayer de publier bien haut la bonne nouvelle. Je vais afficher le texte. C'est pas vraiment très prévu tout ça, on fait un peu de... On va afficher le texte. Et je vais nous inviter à le lire ensemble. Alors, ça devrait être dans les chants. Tout, comment on fait ça ? Je l'ai fait hier soir, on dit son jumeau de chant. Voilà. Général. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est Gémin, oui, c'est ça. Je l'ai trouvé hier. Je devrais le retrouver. Il est dans le Gémin, oui. Non. Je ne trouve pas. Mais il est dans le Gémin aussi. Ouais. Vous croyez qu'il est dans le À toi la gloire ? Bon. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, on va faire circuler le... J'arrive plus. On va essayer de le chanter ensemble. On l'a en texte chez nous, celui-là ? À toi la gloire 58. Alors on va essayer de le chanter ensemble pour finir le culte. Pas le culte, mais au moins le moment de message. Je l'ai pas dans mon truc. Bizarre ça. Bon. J'aime, c'est 66. Voilà. 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 Dieu Tout-Puissant. Il faudrait peut-être qu'on l'agrandisse, celui-là. Parce que là, il va falloir des jumelles. Par contre, je sais pas. Romain, tu sais comment on l'agrandit, là ? Tu sais pas non plus. Diaporama. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a besoin d'aide. Hein. Dieu Tout-Puissant. Alors, ce qu'on va faire, mes amis, On va déjà le lire. Et ensuite, j'ai vu que notre sœur gentiment voulait bien accompagner, on va le chanter. Mais moi, j'aimerais, un peu comme le chant de notre frère tout à l'heure, si vraiment on a un Dieu puissant, alors qu'on puisse le proclamer. Qu'on puisse pas juste le chanter pour le chanter, mais que ça soit notre cœur. Et que ceux qui épousent le texte se lèvent. Je ne veux pas dire qu'il y en ait d'autres, je ne souhaite pas que quelqu'un reste assis. Mais mon appel ce matin, c'est que si on a du mal à considérer que Dieu est un Dieu puissant, si on est un peu coincé quelque part, alors qu'on demande du secours. Qu'on demande du secours. On lit ce premier texte ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son ombre livre aux zéphyrs son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour, quand tu es bon, ô Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour, quand tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, splendeur de ton ciel, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Est-ce que vous le croyez? Alors, c'est possible de le... au pied levé? Voilà. Alors, moi je vous invite, si vous épousez le texte, si vous croyez ces choses, si vous croyez ces choses, je vous invite à vous lever. Si vous êtes en train de souffrir, si il y a quelque part quelque chose qui coince encore, quelque chose où vous vous dites, moi j'ai pas l'impression que c'est un Dieu d'amour, que Dieu m'a oublié, que je suis en train de traverser une épreuve et qu'il ne me voit pas. Alors mes amis, restez assis. Et c'est pas exclusif, c'est inclusif. Parce que si ce matin vous restez assis, vous dites, j'ai besoin d'aide. Je crie vers mon Dieu pour qu'il vienne vers moi.
Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand dans les bois ou la forêt profonde, les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et joyeux, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon sauveur.
Criez sur les... La bonne nouvelle. Que Dieu est un Dieu puissant. Que Dieu est un Dieu qui n'abandonne personne. Que Dieu a un message. Alors s'il y a ce matin des personnes qui ont du mal avec ce texte, qui peut-être n'ont pas le moyen ce matin de dire « Ce Dieu, c'est le Dieu qui s'occupe de moi. » Moi, je les invite ce matin à venir vers Dieu. À prendre la main de Dieu parce qu'il vous l'attend. Si c'est le cas, juste là où vous êtes, vous levez la main. Là où vous êtes assis, vous levez la main suffisamment pour que je la voie, voilà. Pour que je puisse prier avec vous, peut-être après le culte, voilà. Voilà, deux personnes, trois personnes. Oui Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu tout puissant et tu vois que majorité des personnes dans cette salle veulent le proclamer. Comme le prophète Ésaïe, Seigneur, nous voulons proclamer à notre monde que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu créateur, que tu es un Dieu qui pourvoit, que tu es un Dieu qui a un cœur. Et ce matin, je voudrais te prier pour ces quelques personnes qui ont levé la main, quelques personnes qui ont du mal à chanter que tu es ce Dieu puissant. Ils traversent des difficultés, ils font face à des problèmes, et Seigneur, toi, tu veux les écouter. Alors tu nous permets de les entourer, d'écouter quelles sont leurs difficultés pour que nous puissions te les présenter et que, Seigneur, ils puissent se tourner vers toi pour trouver la bonne solution. Merci pour ce texte, merci pour ces belles paroles du prophète dans lesquelles tu as mis ces paroles dans sa bouche. Qu'elles ne soient pas des paroles juste instantanées qui vont disparaître une fois le culte terminé, mais que ce soit un chant que nous puissions communiquer dans toutes ces villes et dans les villes où nous habitons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.